Vous êtes avec Bernard Poirette jusqu'à 9h. Merci d'avoir choisi Europe 1. L'actualité, Émilie Bonneau, Bernard Poirette.
Émilie, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Les pompiers de retour rue de Trévise à Paris pour sécuriser le quartier après la forte explosion d'hier qui a fait 3 morts. La mobilisation des gilets jaunes en hausse et moins violente hier avant le lancement du grand débat national, ce sera mardi. L'arrestation de César et Battisti en Bolivie et puis le foot et l'heure de vérité pour Marseille ce soir face à Monaco.
Europe 1. Ce matin, la rue de Trévise à Paris dans le 9e reste totalement bouclée après la puissante explosion qui a dévasté tout le quartier hier matin.
Et les pompiers sont de retour en train de s'installer en ce moment pour continuer à sécuriser la vingtaine d'immeubles touchés, ce qui veut dire que pour le moment les 600 habitants évacués pour la nuit ne peuvent pas retourner dans leurs appartements au lendemain de ce qui ressemble pour eux à une catastrophe qui a fait 3 morts, 2 pompiers et une touriste espagnole tuée dans cette explosion due à une fuite de gaz. Sur place, Victor Dolande pour Europa.
Dans la rue dévastée, il ne reste plus rien de la boulangerie et du restaurant situé juste à côté. L'onde de choc, ressentie à plusieurs centaines de mètres aux alentours, a soufflé de très nombreuses fenêtres. Des voitures garées ont même été retournées. Victor était chez lui quand il a entendu l'explosion.
C'était comme un tremblement de terre. J'ai même l'impression que mon immeuble a tremblé. C'était vraiment extrêmement fort. Des bruits de verre partout, c'est impressionnant. Hein.
Gabrielle habite depuis 75 ans dans le quartier, elle est encore sous le choc.
On se croirait à la guerre. Entendre ce bruit, voir les gens courir. J'ai vu le pompier partir malheureux, les autres pompiers pleurer, les gens sur les civières, c'est dur.
Avec la déflagration, les fondations des immeubles voisins ont bougé. Les pompiers vont donc multiplier les vérifications dans les prochaines 48 heures, comme l'explique Éric Moulin, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.
Nous allons donc sécuriser l'ensemble de ces bâtiments au fur et à mesure, de manière à pouvoir aller vérifier dans chaque pièce, à partir du sous-sol jusqu'au dernier étage, voir si on a encore des victimes qui seraient encore ensevelies.
La mairie du 9e arrondissement de Paris a ouvert une cellule d'accueil et d'assistance pour écouter et réconforter les habitants sinistrés.
Victor Dolande, et ce matin dans le journal Le Parisien, un élu membre de la commission supérieure de contrôle du gaz dénonce un réseau catastrophique dans la capitale. Sur les réseaux sociaux par ailleurs, depuis hier se multiplient les hommages aux 2 sapeurs-pompiers morts hier dans l'intervention rue de Trévise. 2 jeunes hommes de 27 et 28 ans, l'un père d'un enfant de 4 ans. Emmanuel Macron salue 2 héros sur Twitter et dit toute sa solidarité aux familles.
Le chef de l'État est à la veille de publier sa lettre aux Français dans la presse avant de lancer après-demain le grand débat national.
En réponse aux gilets jaunes, 84 000 manifestants hier pour le 9e samedi d'affilée de mobilisation selon le ministère de l'Intérieur. C'est 34 000 de plus que le week-end dernier. Et on retient aussi moins de débordements violent, notamment à Paris où un défilé s'est organisé depuis Bercy jusqu'à la place de l'Étoile en passant par Bastille et les Champs-Élysées. Pierre Herbulot.
Les images de l'acte 9 des Gilets jaunes ne feront sans doute pas le tour du monde. À Paris, les violences sont restées marginales, ce que confirme Cédric.
Là, il y a énormément de monde et d'un calme olympien. Non, ça s'est pas trop mal passé.
Pas de pillage, de voitures brûlées ou de scènes de chaos. Rien d'étonnant pour Saïd.
On a été un peu plus organisé dans le sens où on a eu un service d'ordre pour éviter un peu tous les troubles du comportement qu'on pourrait avoir comme les semaines précédentes. On a fait une manifestation qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. C'est plus qu'un plaisir, je pourrais le comparer à une jouissance parce que voilà, on est là par rapport à certaines revendications qui nous permettent aujourd'hui de les revendiquer dans de bonnes conditions.
En plus des revendications habituelles sur la démission d'Emmanuel Macron ou la suppression de l'ISF, les Gilets jaunes se sont trouvés un nouveau slogan, Libérer Christophe, référence à Christophe Détinger, le boxeur de gendarmes. Olivier explique la démarche.
Il doit être jugé pour ce qu'il a fait, parce que c'est pas bien ce qu'il a fait, il l'a reconnu lui-même, mais je pense que de le mettre en prison 1 mois avant, en attendant son jugement, on aurait pu faire autre chose.
Plus de mobilisation et moins de violence, l'équation semble redonner de la motivation aux manifestants qui assurent le mouvement reprend de la vitesse.
Pierre Herbulot, au total hier, ce sont 244 personnes qui ont été interpellées et avant un 10e samedi de mobilisation le week-end prochain, Emmanuel Macron lui va donc lancer le grand débat national lors d'un déplacement mardi en Normandie, moment très attendu par le gouvernement. Adrien Beck.
Enfin, laisser place au débat, l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes à peine terminé. Et voilà la tonalité au sein de l'exécutif, quelque peu rassuré que ce samedi presque calme permette de lancer plus sereinement le grand débat national. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, on ose même se dire content de pouvoir avancer, de remettre du souffle, dit-on. Et il va en falloir, car le programme est chargé. D'abord, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Le président planche encore dessus ce week-end, indique l'Élysée, avant une diffusion demain. Une lettre pour convaincre des Français sceptiques sur l'utilité même du débat qui, lui, sera lancé mardi. Et qu'importe que les Gilets jaunes aient été plus nombreux hier, maintenant, il faut qu'ils viennent autour de la table, estime un député. Un conseiller ministériel abonde. Même si on ne s'attend pas à des tonnerres d'applaudissements, on va pouvoir se concentrer sur le fond, pourvu que ça dure.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Alors nous sommes allés demander aussi aux Gilets jaunes de Bordeaux ce qu'ils pensaient de ce grand débat. Ils ne sont pas tellement convaincus.
Bah moi je veux bien y croire. Après je suis sceptique. Les thèmes sont choisis, les questions seront dirigées. Est-ce qu'on aura réellement un poids dans la parole? Je suis pas sûr.
J'y crois pas à ça. Est-ce que moi je vais être convié à y aller à ce grand débat national? Qui c'est qui va me représenter?
Cette consultation, c'est de l'enfumage parce que c'est pour faire baisser la tension, pour que les Européennes se passent bien en faveur de Macron. Pour dire, vous voyez, on fait quelque chose, on vous écoute, mais ça ne change pas le fond du problème.
Ce sont les premiers à dire qu'on va faire un grand débat, mais on garde le cap, on ne changera rien. C'est pour gagner du temps, faire couler le mouvement, mais ils vont faire comme tous les gouvernements quand il y a des discussions. On discute, on vous a entendu, on fait ce qu'on a décidé de faire. On garde notre cap. Donc gardez votre cap, nous on garde nos manifs.
Des témoignages au micro d'Hélène Terzian.
Alors le grand débat de l'enfumage ou du sérieux, je poserai bien sûr la question à 8h15 à Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, qui sera l'invité d'Europe 1 dans quelques minutes. Plus, en plus, à 10h, il y aura le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République, sera l'invité. Mais d'abord, dans un instant, la suite de ce journal, avec l'arrestation en Bolivie il y a quelques heures de Cesare Battisti, l'ancien militant d'extrême-gauche italien, pourrait rapidement être extradé vers Rome, où il a été condamné par contumace à la perpétuité pour 4 assassinats qu'il a toujours niés.
Europe 1, il est 8h07. L'actu continue avec Émilie Bonneau et Bernard Poiret.
Émilie Bonneau, Cesare Battisti vient donc d'être arrêté en Bolivie.
Oui, et va être renvoyé vers le Brésil où il est menacé d'extradition après y avoir trouvé refuge depuis près de 15 ans après avoir fui la France. L'ancien militant d'extrême gauche bénéficiait jusqu'à présent d'une immunité grâce à Lula, mais le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro a fait de son renvoi en Italie un de ses objectifs. L'Italie où Cesare Battisti est condamné à la perpétuité pour 4 meurtres durant les années de plomb. Également dans l'actualité en ce moment, la période des salons d'orientation pour les élèves de terminale, mais aussi de seconde. Ils sont également concernés car avec la réforme, ils vont devoir très rapidement sélectionner 3 spécialités pour l'année prochaine. Virginie Salmen.
D'ici le mois de mai, les élèves de seconde vont devoir choisir 3 spécialités parmi une douzaine de matières, littéraires, scientifiques ou artistiques, comme par exemple cette nouvelle discipline baptisée Humanité, Littérature et Philosophie. Ce qui préoccupe Albertine, 15 ans, c'est qu'à ce stade, ni ses parents ni les profs ne sont capables de l'aiguiller.
Je trouve ça en même temps chouette parce qu'on a plus de choix en fait à faire que S où on fait physique, maths, SVT et tout ça. Mais en même temps c'est un peu stressant parce qu'on n'a pas les programmes, on ne sait pas exactement ce qu'on choisit. Même les écoles auxquelles on va parler, les représentants des écoles, y en a qui ne savent même pas qu'il y a un changement de filière et donc je trouve que c'est quand même assez stressant.
Pour ceux qui veulent faire une école d'ingénieur, la solution est simple, il faut choisir maths et physique-chimie en première. En revanche, pour les écoles de commerce, la réponse est moins évidente. Les élèves de seconde ne savent toujours pas quelles matières seront privilégiées, explique Emma Stolz de l'EDEC.
À ma connaissance, il n'y a pas d'écoles qui ont déjà de grilles prédéfinies. Je pense que les écoles elles vont s'adapter à tout ça parce qu'elles savent que c'est difficile, tout le monde est dans le flou.
Et les écoles vont devoir se positionner rapidement d'ici 4 mois au moment où les élèves de seconde vont devoir acter leur choix.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. À 8h10, c'est le moment de passer au sport avec vous, Émilie Bonneau.
D'abord, le football, Émilie, et le match, comme on dit, à ne pas perdre. Ce soir pour l'Olympique de Marseille.
Oui, face à Monaco, dernier de la Ligue 1, Marseille en plein doute avec une série de 7 matchs sans victoire, l'élimination par un club de National 2 en Coupe de France et mis sous pression aussi par certains supporters venus manifester devant le centre d'entraînement. Une situation prise très au sérieux par le capitaine Florian Thauvin a donc voulu que tous les joueurs cette semaine puissent s'exprimer.
Aujourd'hui, on est allé à la base, on a pris le problème à la base et on s'est dit les choses tous ensemble. Et ce que j'ai apprécié de la part de tout le groupe, c'est que ce soit autant les plus jeunes que les plus anciens, tout le monde a été dans la capacité d'entendre ce qui lui était reproché. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on est reparti sur des bonnes bases et c'était important de le faire.
Florian Thauvin avec Yann Théroux pour Europe 1. OM Monaco, ce sera à 21h ce soir. Les autres matchs de cette 20e journée de Ligue 1, 15h Nantes-Rennes, 17h Dijon-Montpellier et Toulouse-Strasbourg. Hier, victoire 1-0 de Saint-Etienne à Guingamp et de Nice face à Bordeaux sur le même score. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 à Amiens, sans Neymar laissé au repos à cause d'une douleur à un genou.
Au mondial de handball en Allemagne, à Berlin exactement, les Français retrouvent leur marque.
Et leur patron aussi, Nicolas Karabatic, arrivé hier dans l'après-midi et qui était donc comme prévu dans les tribunes pour assister au deuxième match de ses coéquipiers et applaudir pour leur victoire, cette fois-ci nette contre la Serbie 32-21. On les a vus beaucoup moins nerveux en effet que face au Brésil. L'arrière, Valentin Porte.
On savait qu'il fallait faire mieux rapidement. Aujourd'hui, tout n'est pas parfait une nouvelle fois, mais c'était mieux. Donc il faut qu'on continue comme ça à progresser de jour en jour pour arriver à un niveau... on va dire un niveau très élevé, voire parfait dans les jours à venir, hein, pour espérer faire quelque chose, donc, notamment contre l'Allemagne, parce que si on commence les matchs comme on commence là en ce moment contre l'Allemagne, ça peut piquer. Donc écoutez, on échange beaucoup, on essaie de faire avancer les choses et pour le moment, ça se passe bien.
Valentin Porte au micro Europe 1 de Christophe Lamar. L'Allemagne, hein, ce sera mardi seulement, et puis avant cela, la Corée demain. Aujourd'hui, c'est repos pour l'équipe de France.
Et comme je rectifie toujours les bêtises que je dis à l'antenne, bien évidemment, à 10h, au grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, l'invité sera Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, et non pas de Debout la République. Merci, à tout à l'heure, 9h, avec Émilie Bonneau.